Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour.
Lafayette, la France et l'Amérique.
Lafayette n'avait cessé de plaider la cause de l'Amérique auprès du roi. Et c'est donc quelques semaines plus tard, sur l'Hermione, qu'il partit pour annoncer à George Washington et à l'Amérique cette grande nouvelle. La France, oui, la France était là. Et elle a porté son soutien et son appui à l'indépendance américaine.
Chaque année, le jour de l'indépendance, la tombe du vaillant marquis au cimetière de Picpus reçoit la visite d'une délégation officielle américaine. C'est un rite. Mais le héros des deux mondes, c'est aussi un mythe qu'on réveille à chaque inflexion importante de la relation franco-américaine. Quand le maréchal Pétain, en 1940, pardonnez-moi de citer le maréchal Pétain après le président de la République, veut garder le contact avec Roosevelt, il expédie aux États-Unis un descendant de Lafayette, René de Chambrun. Et Chambrun de chanter à New York, au lendemain de la défaite, le couplet de la pérennité de l'amitié jamais interrompue entre les deux pays. Et en cela, il n'était pas infidèle à son aïeul qui en avait fait un article de foi indestructible. Mais une fois invoqué les mânes du marquis, a-t-on avancé beaucoup ? Dès l'origine, l'alliance des deux gouvernements était davantage décidée par les intérêts convergents que par la générosité des hommes comme Lafayette. Il n'empêche, le pugnace marquis ne cessa jamais de regarder sa mission comme une religion et de préserver de toute souillure son personnage afin de rester dans l'histoire comme une médaille dans un musée. Mieux, une médaille miraculeuse que les Français et les Américains, plus encore, aiment évoquer par gros temps.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Benoît Hiver, bonjour.
Bonjour.
Historien de bonne réputation, notamment de la Restauration, puis vous dirigez les éditions Perrin, dont l'objet privilégié est l'histoire, qui publie en même temps une biographie de Lafayette par Jean-Pierre Bois et un Louis XVI de Jean-Christian Petit-Fils, où un long chapitre est consacré évidemment à la guerre d'indépendance américaine. Alors la guerre d'indépendance américaine, si on en situe les débuts, la manière dont les Français y réagissaient, on peut dire que le gouvernement de Versailles était à la fois intéressé et inquiété, et que dans l'opinion, un grand engouement assez vite s'est dessiné.
Oui, ça se situe dans le prolongement de la guerre de 7 ans, dans une volonté de revanche de l'Angleterre qui nous a battus durant la guerre de 7 ans et qui a pris le Canada français. Donc quand les colons américains commencent à s'organiser de façon assez agressive entre 1774 et 1776, tout de suite du côté de Versailles, un certain nombre de personnes se demandent s'il n'y a pas quelque chose d'utile à faire pour contrecarrer l'ennemi héréditaire, la perfide Albion.
Cependant, les colons, ils inquiètent un peu Louis XVI et même son ministre des Affaires étrangères, Vergennes. Tandis que dans les salons, on aime bien le mouvement des colons.
Mais parce qu'on est déjà dans la rupture entre une partie de la cour et de l'opinion publique avec des idées que l'on appelle philosophiques. Lafayette a été un grand lecteur notamment de Montesquieu, Rousseau, de l'abbé Raynal. Et d'une partie de la cour qui, après avoir eu quelques engouements, on pense à la célèbre représentation de Beaumarchais, se dit que ses principes étant totalement incompatibles avec ceux de la monarchie absolue de droit divin telle qu'elle a été théorisée par Bossuet, un conflit sera peut-être un jour à envisager.
Alors, bien des jeunes nobles aventureux ont précédé Lafayette dans l'engagement, comme le marquis de la Rouërie, qui plus tard sera
contre-révolutionnaire, donc
un des tout premiers contre-révolutionnaires. C'est Lafayette que la mémoire a retenu. Alors, il s'engage à un moment où les insurgents, c'est comme ça qu'on dit, du côté de leurs partisans, sont en assez mauvaise posture. Ils jouent le tout pour le tout. Ils proclament l'indépendance. Lafayette est dans un bureau de recrutement que dans le film de Jean Dréville, où son personnage est joué par Michel Leroyer, le cinéaste situe bien évidemment dans la maison de Franklin, tout près d'ici, tout près de la maison de la radio. Franklin venait de s'installer fin 76 dans la capitale.
Le Congrès de Boston a déclaré l'indépendance des colonies d'Amérique.
Vive le Congrès ! Vive Washington !
Vive Monsieur Franklin ! On ne déclare pas son indépendance, on la conquiert.
Ah, c'est vrai, mais on ne la perd pas non plus dans une seule bataille.
Si, quand c'est la dernière.
La dernière sera celle où les Anglais seront écrasés.
Par vous, monsieur le marquis ?
Par moi. par vous tous ici qui partirez avec moi.
Vous pouvez disposer d'un bateau?
Un bateau, ça s'achète.
Vous êtes riche, mais connaissez-vous le prix d'un bateau, d'une cargaison d'armes?
La liberté n'a pas de prix, monsieur.
Mais c'est la vôtre maintenant. Que vous risqueriez si le roi venait à apprendre que vous voulez acheter un bateau?
Il ne l'apprendra que lorsque j'aurai pris le large.
Vous parlez sérieusement, monsieur de Lafayette? Vous pourriez disposer de 100 à 120 000 livres et du double.
Sans froisser personne ici. Nous partons tous avec contrat en poche et épaulettes sur l'épaule. Vous ne demandez rien. Et vous offrez navire et armes?
Je n'y mets qu'une condition.
Laquelle?
Que ce navire s'appelle La Victoire.
Bon, vous voudriez qu'on passe un autre extrait du film de Drevin parce que vous avez, Benoît Hiver, apprécié les accents.
À sa juste valeur, la qualité des accents et la prestation de l'acteur principal.
Michel Leroyer, faut-il encore le dire? Alors, est-ce que c'est une tête de linotte qui cherche la gloire? C'est un petit peu l'hypothèse de votre auteur, Jean-Pierre Bois. Ou est-ce que c'est quelqu'un, c'est l'hypothèse de son petit gendre, le mémorialiste Rémusat, qui, dès le collège, avait conçu une pensée de la liberté supérieure aux réalités d'Ancien Régime dont il était entouré?
Alors, est-ce que c'est Chateaubriand va pas réconcilier les deux approches? Il a dit de Lafayette qu'il n'avait qu'une idée, mais que c'était celle du siècle et que c'était celle de l'égalité. Il n'y a aucune raison de remettre en cause la sincérité de l'engagement de Lafayette au début. Il baigne dans un milieu qui est celui de l'aristocratie de cour. Il est apparenté à un des clans les plus puissants, qui est celui des Noailles, et il est dans l'air du temps, d'une cour qui, encore une fois, depuis la guerre de Sept Ans, s'ennuie, d'un règne qui est celui de Louis XVI, qui n'est pas à proprement parler folichon, où les questions de dette publique ont tendance à l'emporter sur les questions de guerre et de transcendance, et où ce parfait chevalier, si l'on en croit Sainte-Beuve, qui était Lafayette, va chercher, comme beaucoup de gens à toutes les générations, une cause qui va le transcender.
Alors, la participation à la guerre lui fait découvrir d'abord les combats. Il n'en a jamais connu, il a 20 ans. Et puis, la simplicité d'un pays pour lequel il est pris d'amour.
Mais d'amour absolu, c'est une véritable histoire d'amour. J'ai une citation de Lafayette disant « Le bonheur de l'Amérique est intimement lié au bonheur de toute l'humanité. Elle va devenir le respectable et sûr asile de la vertu, de l'honnêteté, de la tolérance, de l'égalité et d'une tranquille liberté. » Donc il est presque le premier Français à croire au rêve américain.
Washington le reçoit et une amitié là aussi naît.
Oui, une vraie.
Électrique entre l'un et l'autre. Enfin, Washington le considère comme son fils adoptif.
Et lui, comme le père qu'il a perdu très tôt à la bataille de Minden, c'est une véritable amitié. Elle s'appuie sur des raisons philosophiques, sur une vraie histoire de passion personnelle, sur ce qu'on néglige aussi, l'importance à l'époque du développement des deux côtés de l'Atlantique de la franc-maçonnerie, dans une volonté de libéralisme aussi, et de tolérance. Et qui joue aussi son petit rôle, du côté de Jefferson et d'autres.
Alors, quel rôle joue-t-il dans l'armée de briques et de brocs des Américains? Il escarmouche.
Alors, il dira lui-même...
C'est Jean-Christian Petit-Fils qui dit ça, il escarmouche.
Il escarmouche, et un jour Bonaparte demandera, dans une de leurs rares rencontres à Lafayette, « Alors, qu'est-ce que vous avez fait concrètement ?» Il a dit « Oui, ça a été essentiellement une guerre d'escarmouche. » Alors, c'est là où on voit quand même l'aristocrate relativement discret. Il a participé à des combats, il a reçu une balle dans la cuisse lors d'un de ses premiers engagements. Il a combattu, je pense que dans un second temps, Washington aidant, on a voulu, plus il devenait iconique, plus on a voulu d'une certaine façon le protéger et en faire non plus un officier d'active, mais un officier d'état-major. Et on voit un Lafayette qui veut tout le temps aller au feu et un Washington qui le retient plutôt à ses côtés.
Après la première victoire décisive des Américains, Saratoga en octobre 77, Washington et le Congrès se disent on va pouvoir se servir de Lafayette comme d'intermédiaire parce qu'on sent comme un frémissement d'intermédiaire plus important à la cour de Versailles pour la cause des insurgents. Et alors, le voici qui arrive à Versailles. Il est annoncé chez Louis XVI. Alors, dans vos éditions Perrin, il y a une série de biographies des rois par Jean-Christian Petit-Fils. À la télé, il y a la série Binisti. Et ça, c'est l'épisode Louis XVI.
Nos renseignements, sire, prêtent aux insurgés américains dont les forces militaires sont mal en point le projet de signer un accord avec la couronne anglaise.
La prétendue faiblesse militaire des rebelles n'est-elle pas un coup de bluff de M. Franklin pour nous contraindre à nous engager davantage?
Si l'Angleterre pouvait avoir la paix maintenant avec l'Amérique, elle régnerait à nouveau en maître sur l'Atlantique et le commerce maritime.
Il n'y a pour nous qu'un moyen d'empêcher cela, c'est d'accroître notre aide aux insurgés en envoyant non seulement des armes, mais aussi des troupes en Amérique. Monsieur de Lafayette est ici pour vous en faire la demande officielle au nom du Congrès américain.
J'ai aucune sorte d'envie de recevoir ce blanc bec.
Sire, c'est impossible. En allant combattre aux côtés des insurgés, Lafayette est devenu le héros du public et celui du Congrès américain. Ne pas le recevoir constituerait un affront pour le Congrès.
Même si ses exploits en Amérique l'ont rendu populaire, il est hors de question de confier le commandement des troupes que nous enverrons aux côtés des insurgés à cet arrogant freluquet.
Enfin, le roi considère comme un freluquet Lafayette, il n'a jamais que 2 ou 3 ans de plus que lui. Et le corps expéditionnaire va se constituer sans que Lafayette en soit le chef. Il y a déjà des difficultés de projection au sol ou en mer des troupes françaises. On n'arrive pas à rassembler autant d'hommes qu'on promet.
Alors, les chiffres divergent, on parle entre le corps expéditionnaire ou global, entre 6 et 12 000 hommes. Il y a une chose qui a très très bien fonctionné, c'est la marine. Et le rôle, vous citiez les grands oubliés de l'amiral d'Estaing et de l'amiral de Grasse, ont été tout à fait déterminants. C'est que celui de Rochambeau, qui ont été les vrais patrons de l'intervention française au sol. Oui, il y a des problèmes budgétaires, déjà qui sont énormes. Mais Jean-Christian Petit-Fils le dit bien dans son excellente biographie de Louis XVI. Louis XVI a réussi à reconstituer une marine française particulièrement puissante et qui est apportée à son actif, qui sera perdu ensuite par Napoléon.
À son nouveau retour, après la victoire de Yorktown, qui combine les forces maritimes et les forces terrestres. Alors, il est reçu avec un enthousiasme encore plus grand qu'à son premier retour. Il goûte la délicieuse sensation du désir d'être aimé.
Oui, il y a ce point fixe chez lui, il y a une permanence des idées, il faut bien le dire, il y a une forme de vanité, mais d'ailleurs presque touchante, qu'il confesse lui-même, disant tout le temps « je dois tout à ma gloire, j'aime être aimé, il goûtera le délicieux sourire de la multitude ». C'est quelqu'un qui recherche, ça c'est son point faible personnel, qui recherche à tout prix la popularité. Or la politique, c'est pas une question de popularité, mais une question de décision. Donc à force de vouloir être aimé, il va bientôt devoir déchanter.
Alors on va raconter sa participation à la Révolution française à la lumière de la Révolution américaine. Disons quand même tout de suite qu'avant le déclenchement de la Révolution française, il y a selon vous, Benoît Hivert, une concurrence chez les libéraux entre le modèle anglais et le modèle américain. Et Lafayette, c'est le modèle américain.
Ça a été un des tout premiers porteurs, avec effectivement les Américains de Paris, Franklin, Jefferson, ensuite gouverneur Maurice, d'un modèle républicain, alors que le modèle anglais est plutôt celui d'une monarchie constitutionnelle. Et c'est celui qui va quand même dominer dans la gauche française facilement jusqu'en 1830. Le modèle américain restera constamment minoritaire. On en trouve, par exemple, l'opposition en 1792, dans la parution de 2 ouvrages, un de John Adams, futur président américain, sur le pouvoir américain en 2 volumes, qui passe totalement inaperçu, alors que Necker publie un Du pouvoir exécutif, qui lui est plutôt sur l'école anglaise, qui est un grand succès de librairie. Les Français sont plutôt royalistes d'inclination que républicains de première intention.
Vous voilà arrivé en 1792, donc Lafayette aura joué un rôle important à la tête de la garde nationale jusqu'en 1791. Il aura été général de l'armée de l'Assemblée législative au début de la guerre de 1792. On verra ce qu'il advient de lui. C'est parfois tragique dans les années qui suivent, mais faisons une pause. Alors, il a été fait citoyen américain avant son départ. De nombreuses cités américaines portent son nom. Il a calculé, Jean-Pierre Bois,
40.
40 localités, dont celle-ci, Lafayette en Louisiane, chantée par les 3 frères Michaud.
Allons à Lafayette, il faut changer ton nom. Maman t'a appelé madame, madame canaille comme mot. Petit et trop mignon, pour faire la criminelle. Toi tu prends mémoire de tous les autres. Et pense pas mal de toi, et danse pas trop codé. Pour faire que fais comme ça, c'est juste pour faire pâcher. Allons à la Fayette, il faut changer ton nom. La monte t'appelait madame, madame canaille comme mot.
ici, c'est la bataille de Yorktown. Hermione a mouillé ici le 29 septembre 1781 et elle revient 235 ans plus tard à rappeler aux Américains ce moment fort de leur histoire puisque leur indépendance commence aujourd'hui. Et Yorktown, cette petite ville qui a certainement peu changé depuis cette époque. Et c'est une grande fierté et une grande émotion de se trouver là aujourd'hui.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Au moment du lancement de l'Hermione, donc c'est le bateau du voyage de 1780, hein, du deuxième
du second voyage.
Soigneusement reconstitué pendant 20 ans à Rochefort, restitué à la mer, le président de la République française avait eu l'occasion de dire que c'était une frégate de la marine royale, mais qui était inspirée par l'esprit des Lumières. Je pense qu'il va parler de nouveau avec Obama, au moins devant la presse, de Lafayette lors de son nouveau voyage qui commence aujourd'hui. Mais revenons à la réalité, non plus au mythe de Lafayette. En 1792, eh ben, il va être honni par les révolutionnaires qui sont à la tête du mouvement maintenant à Paris comme un vil satrape. Il va quitter la France et il va être considéré comme un dangereux bout de feu par les Autrichiens qui vont le mettre dans des conditions terribles pendant 4 ans en forteresse.
Mais c'est un petit peu le drame de sa vie, il est attaqué par les deux camps. Il est attaqué par les royalistes alors que, par exemple, en octobre 89, il essaye de résister comme il peut à la foule qui veut ramener le roi à Paris. Et il y a ce geste très beau où il baise la main de Marie-Antoinette devant pour la protéger à titre personnel, ce qui est un acte d'héroïsme sincère. Mais il n'empêche, pour la cour, c'est un traître. Et de l'autre côté, pour ceux qu'on appellera et les Girondins, puis les Jacobins, il reste un royaliste. En 1792, il revient de son commandement pour dénoncer la faction jacobine à Paris en juin, et certains commencent à le qualifier de dictateur de pagotille, et c'est à ce titre-là qu'il est obligé de quitter le territoire après la chute de la monarchie. C'est un peu le centre introuvable.
Justement, prolongeons un peu cette idée, Benoît Hiver. Il concevait toute révolution comme devant être relativement facile et vite réussi, sans trop de violence, comme la Révolution américaine.
Oui, il est resté. Et bien, il y a un côté un petit peu naïf que tout le monde a dénoncé chez lui. N'oublions pas qu'il a eu ce moment dans la Révolution. Il a eu son quart d'heure pré-warolien, entre guillemets, qui a été la fête de la Fédération, en juillet 1790, où, commandant des gardes nationales, il défile sur son fameux cheval blanc et reçoit une ovation fantastique. À l'époque, on l'appelle le roi de Paris. Donc il se dit que finalement, oui, on peut réconcilier la couronne et la révolution naissante, autour non pas forcément d'une république, mais d'une monarchie constitutionnelle pondérée. Il croit qu'il a persuadé Louis XVI, ce qui n'est évidemment absolument pas le cas, et il pense qu'il va réussir, grâce à la garde nationale, dont il est très fier, à modérer les ardeurs des sections jacobines. Double erreur et un passe tragique qu'il va découvrir entre 1791, fuite de Varennes qui découvre que la monarchie ne veut pas de la révolution, et 1792 avec l'avènement de la terreur.
Il va payer de sa personne, sa méconnaissance du tragique dans l'histoire, 4 ans dans les fers. Et il est fidèle à sa réputation, parce que c'est un homme qui doit toujours ressembler à son personnage, donc disent les textes, il est resté dans la sérénité, le calme. Ses enfants étaient en Amérique.
Oui, alors il a réussi vers la fin, sa femme a réussi à le rejoindre durant ses dernières années de captivité, il a renoncé absolument à rien. Les Autrichiens lui ont demandé, il y a eu quelques tentatives ébauchées pour le faire libérer, on lui demandait soit d'émettre quelques regrets. Il a toujours, ce qui est très 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 courageux, parce que pour quelqu'un qui n'avait connu qu'une forme d'opulence, être offert pendant 4 ans, c'est très très long, 4 ans de captivité. On ne peut que l'admirer pour ça. Donc il est de bon goût toujours en France, mais esprit critique par excellence de se moquer de Lafayette, c'est quand même un homme, certes, qui peut être fixe et rigide, mais qui fait preuve physiquement et moralement d'un indéniable courage.
C'est-à-dire qu'il n'a pas regretté, pendant ses 4 années de prison, de ne pas avoir vécu, il s'est tenu debout.
Oui, c'est ce qu'il a dit dans une phrase célèbre en opposition à Sieyès, qui lui a dit « j'ai vécu ».
Il va rentrer discrètement en France en 1799, il ne va retrouver de rôle politique qu'en 1815, en devenant élu et à la fois comploteur pendant la Restauration.
1815, on oublie un peu trop qu'il est effectivement... Alors il accepte du bout des doigts, il refuse d'être sénateur, mais il accepte de Napoléon qu'il exècre de devenir député. C'est lui qui porte le fer à la Chambre pour faire tomber Napoléon. Et son discours a été déterminant dans la seconde chute de Napoléon. Mais comme souvent dans la vie de Lafayette, ceux qui l'accusent d'avoir été un peu un idiot utile, il travaille pour Fouché, et donc indirectement pour le retour des Bourbons. C'était pas fichu, il avait servi Louis XVI avec fidélité, et chose très peu connue, il avait une forme d'amitié pour le comte d'Artois. Il détestait
le
Louis
frère
XVIII.
De Louis XVI, le futur Charles X.
Il méprisait Louis XVI, qu'il trouvait un peu nigaud. Il trouvait que Louis XVIII était pervers, mais il a toujours eu une certaine forme de tendresse pour cet homme à cheval qui était Charles X. Et qui...
C'est-à-dire que c'était deux bons hommes qui pensaient toujours la même chose.
Mais qui respectaient leur forme d'intransigeance réciproque. Et il y a une phrase de Charles X disant « Monsieur de Lafayette et moi sommes les seuls à n'avoir jamais changé d'avis depuis 1789 ».
Patriarche dans la Seine-et-Marne, dans son château de Lagrange, député de la Sarthe à la gauche de l'Assemblée, il est invité comme tel et surtout comme quasi-père fondateur par le président Monroe pour une longue tournée, la dernière, aux États-Unis en 1824.
Par un arrêté du Conseil commun de New York, il avait été décidé que je serais reçu en Amérique comme l'hôte de la nation. Je m'embarquais au Havre le 13 juillet 1824. New York, Boston, West Point, Philadelphie. Baltimore. La scène imposante et solennelle de ma visite au tombeau de Washington. Puis ma visite aux nouveaux États du Sud.
Puis, parce que ça va durer, Benoît Hiver, 13 mois.
Oui, c'est fou. C'est un voyage. Ouais. Il voit tout. Il voit Boston, Philadelphie, New York, Washington plusieurs fois. Il visite la quasi-totalité des États. Il est invité au Congrès, il prononce une multitude de discours, il inaugure des bustes. Il y a même des livres qui sont publiés. Son secrétaire a publié un récit en deux volumes de près de 500 pages de ce voyage, mais qui fut un vrai voyage triomphal. Envers de la médaille, il était bon temps à ce moment-là de quitter la France où il avait joué un rôle assez trouble dans les conspirations de la charbonnerie.
Mais quand il rentre, il va être comme remis en selle, enfin...
Oui.
Il a quand même, c'est cassé le col du fémur. Hein.
Bon, il est moins frais, oui.
Il est moins frais. Et ça va être le retour de flamme du modèle américain.
Et c'est le moment où, d'ailleurs, Chateaubriand, qui a toujours eu beaucoup d'instinct, publie un voyage aux États-Unis. On est à 7 ou 8 ans de la démocratie en Amérique, qui d'une certaine manière est le relais intellectuel de l'œuvre de Lafayette en France. Oui, c'est un retour, parce que c'est le moment où la Restauration commence à entrer dans une phase de crise politique virulente. Qui s'aggrave à partir de 1827. Et donc Lafayette peut, et d'ailleurs il le dira, avoir eu raison très tôt contre tout le monde.
Il fait d'ailleurs campagne électorale dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, déjà constituée en 1829, et on sait qu'il a joué un rôle important dans la révolution de 1830, retrouvant son rôle, parce que c'est toujours un remake, l'histoire de Lafayette, de chef de la garde nationale qu'il avait eu en 89-91.
Absolument incroyable, et muni d'une, il a 70 ans à ce moment-là, et muni d'une telle aura, qu'un maman, Rémusat, vient le voir et lui dit « Écoutez, il y a deux solutions, c'est vous, président de la République, ou Louis-Philippe. » Et il répond très intéressant « Non, non, moi je ne vise absolument pas le pouvoir, je ferai tout ce qu'on peut pour Louis-Philippe. » C'est un peu la beauté et le drame du libéralisme, c'est que quand on veut apporter la liberté aux autres, on n'a pas forcément envie d'exercer le pouvoir soi-même.
Et d'ailleurs, il va se fâcher peu à peu avec Louis-Philippe.
Ça ne va pas durer longtemps.
En 1834, quand il est enterré à Picpus, c'est sans obsèques nationales en France, mais avec des honneurs nationaux.
Oui, il y a même les deux chambres sont réunies en congrès pour entendre un...
Aux États-Unis.
En France, on est très très discret, mais parce que Louis-Philippe s'en est débarrassé au bout de 6 mois.
Mais c'est souvent les États-Unis qui réveillent le souvenir de Lafayette. Alors je vais ici évoquer un souvenir que vous aviez perdu, Benoît Hiver, pourtant c'est de la mémoire immédiate. Hein. 2007, Nicolas Sarkozy, qui veut rompre avec le moment Chirac, va présenter ses hommages au président Bush à la Maison-Blanche, et le président Bush va lui donner un dîner-spectacle avec une comédie et des comédiens qui jouent le rôle de Lafayette et d'Adrienne. Nous, on n'a que Nicolas Sarkozy, mais enfin, on va l'entendre.
Pas d'acteur hier à la Maison-Blanche, mais une soirée de gala pour la France.
Je m'appelle Marie-Joseph Paul Ivroche Gilbert Dumotier, marquis de Lafayette.
Un dîner-spectacle où des comédiens font revivre des dialogues entre George Washington et le français Lafayette.
To the father of liberty.
C'est un peu au théâtre ce soir à la Maison Blanche, décor de George Bush, mais mise en scène de Nicolas Sarkozy. Il met en avant une équipe aux couleurs de la France, où Ramayad côtoie Condoleezza Rice, le casting rêvé pour le chef de l'État.
Mais je suis venu vous dire qu'on peut être l'ami de l'Amérique et gagner les élections en France.
Je porte un toast à votre pays, ce vieil ami de l'Amérique.
Main sur le cœur, c'est la déclaration d'amour de Nicolas Sarkozy à l'Amérique.
Ma génération a partagé tous vos rêves. Dans l'imaginaire de ma génération, il y a la conquête de l'Ouest et Hollywood. Il y a Elvis Presley, il y a Duke Ellington, il y a John Wayne.
Bah oui, alors chez Bush, il y a Lafayette, et chez Nicolas Sarkozy, il n'y a pas Lafayette.
Non, il y avait Tom Cruise aussi. c'est typique d'un certain oubli français pour Lafayette, qui est une forme d'injustice, mais qui est plus généralement ce qu'on pourrait qualifier le drame du centre en France, et aussi le drame de la liberté. Lafayette a vécu et a été le père de quatre révolutions. Première révolution américaine, 1789, 1815, 1830. Il n'a jamais fait verser le sang de ses semblables. Il s'est toujours trouvé pris entre les extrêmes. Et la règle d'airain des révolutions, c'est qu'elles sont commencées par des modérés avec des intentions pures, mais qu'à la fin, souvent, presque toujours, ce sont les armes qui partent. Le et en terre, c'est même modéré.
Pour en revenir à Rémusa, qui était son petit gendre, grand mémorialiste du 19e siècle,
oui.
Il disait, bien qu'appartenant à son clan, le jugement de Lafayette n'était pas au niveau de ses autres éminentes qualités. S'il avait élevé son jugement au niveau de son âme, cela aurait été un grand homme. Ça veut dire que ça n'a pas été un grand homme.
Alors je vais vous répondre à une citation par une citation de son ami Thomas Jefferson. « Son faible est une fin canine pour la popularité et la renommée », où l'on retrouve son envie d'être aimé, alors que la politique, ce n'est pas seulement ça, et que Lafayette, comme politique pure, n'a pas été un grand, grand, grand politique. Il a déposé la première déclaration des droits de l'homme le 11 juillet, mais qui n'a été qu'une ébauche. On n'a pas de lui, ce qui est intéressant, de grands textes constitutionnels ou de réflexions qui permettent de le faire vivre dans la mémoire des hommes. Ça a été, et ça, c'est aussi un vrai Américain avant la lettre, cher à Nicolas Sarkozy, un homme d'action plus que de méditation.
Mais pour être un grand homme, il faut parfois sortir de son personnage. Et lui, il jouait son personnage.
Ah, il y est resté, ça, je vous dis, sa pendule est restée en 89, donc ce très joli portrait de Rémusa que vous citiez dans ses mémoires, qui fait une vingtaine de pages, il explique paradoxe que le parangon de la liberté vivait en despote et qu'autour de lui, tout le monde chantait son génie du soir au matin, mais que jamais ne remettait en cause son action.
C'était un patriarche qui comptait bien, mais il récitait un peu. Merci à vous, vous n'êtes pas dans ce cas, Benoît Hiver. Est-ce qu'on a suffisamment cité Lafayette de Jean-Pierre Bois, c'est aux éditions
Perrin, mais...
Et Louis XVI de Jean-Christian Petit-Fils, c'est aux éditions...
Perrin, dans une excellente maison.
Absolument. Merci à vous, l'émission a été réalisée par Jacques Sigal, avec dans l'équipe Ilinka Negulesco, Guillaume Scaillet, Franck Olivard et Frédéric Martin, et je ne regarde d'oublier à la technique, Florent Layani.
C'était une rediffusion de La Marche de l'Histoire de Jean Lebrun qui date du 24 novembre 2015. Et toute cette semaine, nous retrouverons Jean Lebrun et ses invités sur le thème de la Révolution française.